Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Laura Markelli. Bonjour.
Bonjour.
Laura Markelli, vous êtes salariée au sein de l'association Solidarité Anorexie Boulimie 26 et vous êtes ici pour nous annoncer une semaine dédiée à l'information et à la sensibilisation sur les troubles des conduites alimentaires. C'est dans le cadre des journées mondiales également qui s'organisent à partir d'aujourd'hui et il y a aussi cette solidarité dont vous nous allez présenter un peu l'origine également. Alors, cette semaine commence dès aujourd'hui, hein, ce lundi 2 juin, ça sera à Valence. Pour les auditeurs du DIWA, ça sera peut-être difficile d'y assister, mais en premier lieu, c'est un café débat qui débutera à 19h15, cela pendant près de 3 heures. Et ça se passera au café Victor Hugo, 30 avenue Hugo, à Valence. Alors, qu'est-ce qu'on pourra y entendre pour ce premier jour ?
Eh bien, en fait, comme vous le savez peut-être, l'association SAP 26 essaye de rayonner sur l'ensemble du département, d'où le 26. Vu que c'est moi qui l'ai initié il y a 3 ans, ben, la majorité des activités se passent sur Die. Mais il y a aussi un groupe de parole qui se tient une fois par mois sur Valence et qui est animé par des professionnels de santé. Donc Pascale Pérez, qui est diététicienne spécialisée en troubles des conduites alimentaires. Et elle fait venir régulièrement avec elle soit des psychologues ou des psychomotriciennes pour animer ce groupe. Et donc, elle tenait absolument à proposer aussi quelque chose sur Valence dans le cadre de cette semaine d'information et de sensibilisation. D'où ce café débat rencontre ce soir à 19h15 qu'elle va animer avec une psychologue, il me semble. Et après, voilà, l'idée, c'est de répondre aux questions des personnes qui seront présentes ou de donner des conseils, apporter sa compétence et sa connaissance sur le sujet des troubles des conduites alimentaires qui sont malheureusement peu mal accompagnés en France.
On peut peut-être marquer un coup sur cette origine hein, de cette solidarité anorexie-boulimie, donc existant depuis 3 ans. Quel chemin parcouru depuis et quelles sont ces perspectives, hein, sachant que le rayonnement s'adresse sur le département.
Oui, et ben, donc en réalité, ça avait démarré il y a 3 ans pour juste proposer des groupes de parole sur Die. C'est un peu, donc c'est l'union des SAB, l'USAB, et qui invite à proposer des groupes de parole dans les départements où il n'y a pas d'antenne. Voilà, donc moi je les avais contactés, j'ai créé cette antenne dans la Drôme et rapidement, en fait, le groupe de parole n'a pas suffi. Et donc moi, j'ai cherché un petit peu quoi développer d'autre. Donc on développe pas mal d'activités sur Die en ce moment. Il y a un atelier d'écriture, il y a de la psychomotricité, il y a du sport adapté avec une prof de sport. Et du coup, évidemment, j'avais énormément d'appels de familles qui n'étaient pas du DIWA, donc de Valence, mais aussi de Montélimar, de Cré, de Romans. J'ai même des appels de familles qui sont en Ardèche, voilà, parce que c'est vraiment des sujets qui sont où on se sent souvent isolé. Et donc, pour le moment, il y a ce groupe sur Valence qui fonctionne. Et après, l'idée, ce serait de pouvoir peut-être créer quelque chose plus dans le sud du département, donc peut-être vers Montélimar. Mais pour le moment, je n'ai pas du tout de contact ni de relais là-bas. Donc, il faudrait que je consacre un petit peu de mon temps de travail pour aller démarcher des structures ou des mairies qui sont là-bas et voir comment on pourrait créer une antenne dans le sud du département.
Par rapport à cette semaine, il y aura un stand d'info au marché, celui de Die, j'imagine, mercredi et samedi. Est-ce qu'il y a aussi cette nécessité de prise de conscience de cette situation d'être soit anorexique ou boulimique ? Est-ce que parfois, pour certaines personnes, ce n'est pas évident ?
Alors moi, je pense qu'ici, il y a une petite différence. J'ai, à force d'en parler et de faire des émissions ou de parler des actions qu'on fait. Les gens ont identifié qu'il y avait cette proposition ici. Comme on est dans un milieu rural, ils n'osent pas nécessairement pousser la porte de l'association, ils n'osent pas nécessairement venir participer aux activités. J'imagine de peur de, qu'on sache qu'ils souffrent de ces difficultés-là, peur d'être jugés, que tout le monde sache. Donc, après, à Valence, par exemple, c'est plus facile pour eux. Voilà, les groupes ils sont constitués d'une trentaine de personnes. Ici, on est sur un petit groupe. Mais ce qui est important, c'est d'informer qu'on existe déjà, de montrer qu'on est là. Et les stands d'info au marché, donc oui, ce sera mercredi matin, samedi matin à Die, et il y aura aussi vendredi matin à Luc-en-Diois. Et c'est au moins pour que les gens m'identifient moi, s'ils ont envie de prendre contact, qu'ils aient connaissance des différentes propositions d'activité de l'asso, et après qu'ils n'hésitent pas à me recontacter derrière s'ils veulent pour un rendez-vous individuel ou téléphonique, et que moi je leur donne les petites astuces, les structures vers lesquelles se tourner pour en fait réduire au maximum le parcours de soins, parce que c'est souvent un parcours très long où on se perd, où les gens ne savent pas, ils abandonnent, et ils perdent confiance. Et voilà. Donc j'ai pas de baguette magique ni quoi que ce soit à apporter. Chaque personne doit un peu, selon moi, inventer son soin. Sa manière qui lui convient le mieux. On n'aura pas le même besoin si on est une ado qui démarre les troubles et dont c'est les parents qui prennent en charge le parcours de soins. Et si c'est une personne adulte ou une maman qui a des enfants à assumer, elle ne pourra pas nécessairement entrer sur une hospitalisation et tout ça. Et donc, c'est un petit peu essayer de discuter et de voir comment on peut améliorer, adapter chaque personne avec ses besoins.
Vous êtes tenu de toute manière à être dans la confidentialité de ces contacts, de ces personnes qui viennent vous voir. Qu'est-ce qui ressort avec ces 3 années d'expérience de ce qui semble être le plus efficace ? Est-ce que c'est le dialogue ?
Bien sûr, évidemment, la confidentialité, ça va de soi. Après, les gens qui viennent, ils ont toujours cette petite incertitude-là ou cette peur-là. Donc, évidemment, les personnes qui participent aux activités, ça reste anonyme. Ce qui se dit, ça reste anonyme, ça ne sort pas de l'asso. C'est bien de le redire. Merci. Et ce qui ressort de ces 3 années, déjà, le fait de se retrouver et de parler et de partager les difficultés que rencontrent les uns et les autres, que ce soit tant les personnes qui sont en souffrance, mais aussi les proches qui sont souvent perdus. Déjà, quand on dit que les groupes de parole, ça sert, c'est pas une invention. C'est qu'il y a vraiment un besoin à un moment quand on vit des situations qui, en fait, bouleversent une famille, qui bouleversent un environnement proche. Il y a besoin aussi d'en parler et de sentir que, en fait, d'autres traversent ça, que les autres peuvent comprendre ce qu'on vit parce qu'eux-mêmes l'ont vécu. Et en fait, on se sent plus si seul que ça. Pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, finalement, elles se disent « Ah oui, ce que je traverse, je ne suis pas folle. D'autres personnes le traversent aussi. » Et donc, voilà. Pour moi, c'est important. Et après, depuis 3 ans, en fait, que j'ai initié ça, ça m'a aussi invité, moi, à me questionner sur mes propres troubles, parce qu'ils sont toujours là. Et l'envie d'aider les autres m'aide aussi, et moi, à avancer. Et donc, je fais pas mal de recherches, de petites formations avec des professionnels. Et après, j'essaye de transmettre ça. Et quand j'ai des petites avancées, j'essaye d'en parler aussi aux autres. Ça doit donner une petite lueur d'espoir ou une petite motivation supplémentaire, quoi.
Quelles sont les difficultés globalement, même si on peut faire au cas par cas, mais quelles sont les difficultés qui jalonnent ces journées pour les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires ?
Chaque personne vit un petit peu son trouble différemment. Donc, on peut faire des grandes catégories parce que le milieu médical a besoin de faire des grandes catégories entre l'anorexie, où on va être dans des restrictions importantes, un poids qui est souvent assez faible. La boulimie, où il peut y avoir des restrictions, mais des phases avec des envies de se remplir énormément et où il va y avoir un poids un petit peu dans la norme. pas nécessairement faible ni en surpoids. Et après, il y a d'autres troubles qui amènent sur l'hyperphagie, où là, c'est un besoin de se remplir vraiment dû à des problèmes émotionnels la plupart du temps. Et là où ça peut entraîner vers du surpoids ou de l'obésité. Donc déjà, sur un terme strictement médical, ça pose des problématiques dans ces trois situations, évidemment. Donc là, avant toute chose, il faut avoir un suivi avec un médecin généraliste qui surveille ces aspects somatiques. Et après, derrière, il y a des angoisses liées à la question des repas, des angoisses liées à la question de l'apparence physique, à la peur du jugement des autres, de la culpabilité, de ne pas arriver à manger avec d'autres, ou la culpabilité de ne pas arriver à s'empêcher de faire du sport si on est dans l'hyperactivité. Il y a un problème d'estime de soi qui est très important et très fort, et donc qui empêche parfois de croire en soi, de se lancer dans des projets, de garder un emploi, même de garder une relation amoureuse, parce qu'on se dévalue tout le temps. Et après, petit à petit, il y a un isolement social qui peut arriver. Donc ça, c'est fait partie des choses, des troubles dépressifs. Et après, quand on a par exemple de la boulimie ou de l'hyperphagie, il y a aussi un coût financier qui est important parce qu'on a besoin d'acheter des grandes quantités de nourriture. Donc il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte.
Laura, tu as initié cette création de SAB 26 il y a 3 ans, avec le soutien d'organismes qui existaient déjà et qui ont pu te mener, te guider aussi sur cette création.
Tout c'est venu comment ? Je suis allée à Saint-Étienne pour faire un examen de suivi, parce que ici on dépend de Saint-Étienne pour tout ce qui est des conduites alimentaires. Et là-bas, j'ai vu une affiche du SAB qui se trouve à Saint-Étienne, où il disait qu'il faisait des groupes de parole. Et donc après, j'ai appelé en demandant s'il y en avait un dans la Drôme. Ils m'ont dit non. Et ils m'ont donné le contact de la fédération, enfin de l'Union des SAB. J'ai appelé pour savoir comment créer cet asso, et voilà. Il a fallu trouver un bureau, 3 personnes, déposer des statuts, et ici, au début, on a été hébergé l'ancien local d'écologie au quotidien pour les groupes de parole, donc le local qui était à la porte Saint-Marcel. Et puis ensuite, la deuxième année, on a pu faire nos activités à la communauté de communes du DIWA, parce que la question de la santé mentale est aussi un des sujets qui porte sur le territoire. Donc ça avait du sens.
Nous abordons la suite de cette semaine avec mercredi 4 juin un atelier d'écriture qui aura lieu à Caracol, rue Kateb Yassine, avec les popotes. Ça sera de 13h45 à 15h15. Donc un atelier d'écriture ouvert aux personnes membres du SAB 26. D'ailleurs, comment peut-on faire partie de cette association ?
Alors, l'association a un local maintenant au 12 rue Émile Laurence, où l'ensemble des activités se passent. Donc, la psychomotricité, groupe de parole, atelier d'écriture. Moi, j'y suis normalement les lundis matin et jeudi matin. Et après, en plus, si besoin, pour des rendez-vous. L'atelier d'écriture de ce mercredi, il sera ouvert à tous, justement, comme c'est une semaine à destination de l'ensemble de la population. Ça va être un atelier grand public. C'est Michel Geoffroy qui anime bénévolement les ateliers d'écriture pour l'association. Et en tout cas, ça fait depuis octobre qu'il a été mis en place, toutes les 3 semaines environ, et on sent réellement que ça fait partie des choses qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'oser exprimer des ressentis, des émotions, des situations refoulées qu'on n'arrive pas à exprimer oralement. Et donc là, l'idée de cet atelier d'écriture de mercredi, ce sera plutôt d'inviter les convives qui passent aux popotes de parler de l'alimentation, de la manière de se nourrir. Et après, pour ceux qui veulent, il y aura vraiment un petit temps en mode atelier d'écriture dans un coin, dans la cour, en fin de service. Voilà.
Il y a une limite d'accès ?
Ben non, en réalité, au Popote, il y a 120 personnes qui viennent manger chaque mercredi. Et après, en fonction du nombre de personnes qui voudra rester, elle pourra faire une ou plusieurs tables. Ça, je pense qu'elle est assez à l'aise avec tout ça.
Comment s'établit cet atelier d'écriture ? Est-ce qu'il y a des thématiques, une discipline, une manière d'écrire ?
Eh bien, alors, pour cet atelier-là, principalement, ça va être plutôt axé sur l'alimentation, la nourriture. Voilà, parce que quand on parle de troubles alimentaires, c'est ce qui vient en premier lieu aux personnes, voilà, quand on parle de ça. Et après, pour nous, enfin pour le cadre, l'atelier d'écriture dans le cadre de l'asso, on n'a presque pas abordé cette question d'alimentation. Et je sais que souvent, on en discute et elle me dit « Mais pourquoi on ne parle pas de ça ?» Parce qu'en réalité, c'est juste la face émergée de l'iceberg et que peut-être aussi, ça sera trop en frontal et trop bloquant pour nous si on nous invite à écrire sur ça. Donc, les ateliers d'écriture qu'on a fait jusqu'à présent, c'était plutôt sur la question corporelle. On a pu faire un bon travail sur le corps dans le cadre du spectacle du festival Friction du Réel, avec le théâtre qui avait choisi cette thématique-là pour son festival. Et du coup, ça nous a permis d'aller bien loin dans nos retranchements et c'était des sujets difficiles mais importants à sortir. Là, on s'oriente plutôt sur la question des émotions parce que, voilà, on dit manger ses émotions, c'est pas pour rien. Donc, c'est le fait d'avoir un rapport compliqué à l'alimentation, c'est directement lié à notre gestion des émotions. Voilà.
S'exprimer sur sa problématique personnelle, que ce soit la boulimie ou l'anorexie, c'est se faire violence face à d'autres. Et pour cela, vous avez une manière de peut-être encadrer un peu ce moment de manière à opérer en douceur, en quelque sorte.
Là, il y aura toujours, de toute façon, il y a la possibilité de rentrer dans le groupe et de s'en extraire si on se sent mal à l'aise, évidemment. Il y a une petite entrée en matière d'une quinzaine de minutes où ce sera vraiment un atelier d'écriture, une petite écriture amusante, voilà, stylistique, vraiment pas pour rentrer sur un truc profond, mais voilà, pour s'amuser avec les mots ou s'amuser avec la grammaire, l'orthographe, enfin voilà, Michel adore faire ce genre de truc. Et après, elle va faire une proposition d'un sujet ou des sujets, je ne sais pas trop. Et chaque personne qui se sent sera invitée à écrire pendant, je pense, 30-40 minutes, pas plus, parce que l'atelier n'est pas très long. Et chacun est libre aussi, comme elle le dit souvent, de ne pas tenir la consigne. Enfin, si la personne sent que le sujet ne lui convient pas ou quoi, et qu'elle a envie d'écrire sur toute autre chose, libre à elle, quoi. On n'a pas envie de mettre de contraintes, et encore moins dans ce type d'activité.
Ensuite, vendredi 6 juin, il y aura donc plusieurs propositions, dont Vélo Santé, on pourra peut-être en parler rapidement, et l'atelier de conscience corporelle avec Claire Pereira, psychomotricienne. Et ce sera de 15 à 17 heures, place Saint-Pierre, devant la cité scolaire du Diwa. J'imagine qu'il y aura des stands, des tables pour échanger. Alors, en quoi consiste cet atelier de Vélo Santé ?
Alors, le Vélo Santé, c'est un dispositif qui est mis en place par l'Espace Jeune, donc qui pour les ados de 11 à 25 ans, il me semble, ils me corrigeront. Et donc, tous les vendredis, entre 15h et 18h, ils se mettent devant la cité scolaire avec leurs petites remorques qu'ils amènent et où il y a pas mal d'infos, de la prévention. Voilà, ils distribuent aussi des bouchons d'oreilles, ce genre de choses. Donc, les enfants, les ados de la cité scolaire, ils ont identifié chaque vendredi, ils savent qu'ils sont devant. Et de temps en temps, sur des semaines spécifiques ou des actions spécifiques, ils font venir avec eux des partenaires. Voilà, donc des fois, animation, il y avait le centre de santé sexuelle qui venait régulièrement avec eux. Il y a Jean-Luc Tuduri qui fait des sports. Et donc là, sur cette semaine-là, moi, je les avais contactés pour savoir si au moins je pouvais être avec eux et avoir quelques documents d'information sur les troubles des conduites alimentaires. Donc, ils ont dit bien évidemment. Et puis ensuite, avec Claire Pereira, qui est la psychomotricienne qui propose les ateliers de psychomotricité chaque semaine pour nous, on a eu l'idée de proposer cet atelier de conscience corporelle. Enfin, c'est elle qui a eu l'idée, d'ailleurs. Et donc, on va mettre des chaises et ce sera probablement des automassages avec des petites balles de tennis. Donc, parce que quand on est dans des troubles des conduites alimentaires, on est dans son mental, on est dans sa tête. C'est un peu la tête qui conduit tout. Et donc, on n'est plus du tout à l'écoute des sensations de son corps. Et ni à l'écoute de la faim, mais ni à l'écoute des douleurs, ni à l'écoute de ses propres limites. Et donc, de faire de la psychomotricité, ça permet petit à petit, par des petits jeux, de reconnecter à tout ça. Donc voilà, elle voulait proposer ça comme, comme activité en extérieur, aux yeux de tous. Parce que bah, la psychomotricité, d'habitude, ça se passe plutôt dans un lieu fermé où on se sent en capacité de déposer tout ce qu'on a à déposer. Là, sur un lieu public, ce ne sera pas de cet ordre-là.
J'avais cette question, est-ce qu'il y a une acceptation de ces personnes à pouvoir participer en public, hein, sur un espace public, sur ces propositions? Est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience du lieu vis-à-vis de ces personnes? Et donc peut-être aussi d'avoir un refus aussi de leur part?
Voilà, c'est vraiment à destination des ados de la cité scolaire principalement et peut-être des gens qui passeront par la place Saint-Pierre. C'est vraiment plus voilà, dans un mode ludique et pour faire une première approche et pour que les gens peut-être identifient Claire aussi parce qu'elle fait un travail super sur le territoire et que c'est sa juste place d'être là, quoi.
Ça sera de 15 à 17 heures, hein, comme je l'avais dit. La suite pour cette journée, ça sera au cinéma Le Pestel avec un ciné-débat suite à la projection de Toxic.
Hi, my name is Maria. I am 1 meter 77. My favorite color is pink and I love dogs.
My name is Christina. I'm 13 years old and I love basketball.
Pas mus greitai toks renginys vyks. Labai svarbus. Atvažiuoja agentai iš pasaulinio lygio organizacijų ir aš labai džiaugiuosi, kad tu dabar pas mus atėjai.
Koks iš jos modelis, taigi jis šluba.
Baik. Padaryk viską, kad man iš gerai.
Kas čia? Tik spinečio padarys.
Aš norėjau paprašyti pinigų po fotosesijos.
Sutartyje yra parašyta, kad iš pradžių jinai atidirba skolą.
Nu, tu ateini, padarai masažą ir pasiemi 200 iš karto.
Alors, on peut peut-être rappeler rapidement ce qu'est ce film.
Alors, le film Toxic, moi, je ne l'ai pas vu, mais du coup, c'est Jean-Pierre qui m'a appelé il y a un mois et demi de ça en me disant qu'il y avait à voir un film qui parlait de troubles des conduites alimentaires et si ça m'intéressait ou pas de participer à un échange derrière ce film. Parce que ça fait plusieurs années que je le tanne en lui disant « si tu vois passer un film, on organise quelque chose ». Donc, de ce qu'il m'en a dit, c'est une agence de mannequins. Donc, voilà, on voit tout ce qui, derrière, oblige les jeunes femmes ou les impose à avoir un poids excessivement faible et tous les stratagèmes, tout ce qu'elles peuvent mettre en place pour pouvoir rentrer dans ces dictats demandés par les agences de mannequins. Voilà.
C'est justement par rapport à ce qui se passera dans l'après-midi à l'adresse de la cité scolaire. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous détectez au niveau de SAP 26 cette problématique de cette minceur exigée par des canons? Est-ce que ça, vous êtes aussi là pour peut-être faire prendre conscience à certaines jeunes, à certains jeunes de cette erreur peut-être?
C'est des sujets qui me touchent beaucoup en ce moment parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mode, si on peut dire, sur les réseaux sociaux. Donc, je suis un petit peu plus vieille maintenant que toutes ces ados. Donc, il y a des choses qui me dépassent et dont je n'avais pas conscience. Mais là, il y a une mode qui s'appelle le Skinny Talk. Et l'idée, c'est que sur TikTok, il y a des challenges où les jeunes femmes doivent être aussi épaisses qu'une feuille A4. Donc, je vous laisse imaginer dans quel état de restriction et de violence vis-à-vis de son corps on doit se mettre pour pouvoir rentrer dans cette mode-là. Voilà, donc ça me dépasse et il y a même eu un communiqué de la fédération et de l'ensemble des associations qui participent à cette journée mondiale pour alerter les pouvoirs publics. Parce qu'en fait, malheureusement, les réseaux sociaux et ce que les jeunes voient sur leur écran, ça va très très vite et ça peut emporter très très loin. Et là où il y a encore 20 ou 30 ans, on voyait juste des unes de magazines et parfois des reportages à la télé où il y avait des jeunes femmes ou des adultes plutôt minces et où on pouvait se dire que c'était ça les... à quoi on devait correspondre. Maintenant, c'est derrière un écran pendant 30 secondes, et puis ça change de vidéo, et 30 secondes, et voilà. Donc ça va beaucoup plus vite, et les dégâts sont beaucoup plus importants. Donc,
D'ailleurs, ça agit aussi sur le comportement. Hein. Est-ce que cela éveille aussi l'inquiétude de parents avec qui ils prennent contact avec vous ?
Alors moi, oui, j'ai des parents qui m'appellent pour me dire que leur jeune fille, la plupart du temps, parce que c'est chez les jeunes filles que ça apparaît, mais il y a aussi quelques cas chez les garçons, donc voilà, restez en alerte, même si vous avez des garçons. Et voilà, donc moi, évidemment, j'écoute, j'essaye de donner des conseils, après, j'ai pas réponse à tout, et je leur dis que, voilà, potentiellement ce que j'aurais aimé que mes propres parents fassent, avoir du soutien, de l'écoute, de l'amour, ne pas forcer, ne pas juger. Et ensuite, je leur donne des contacts d'autres parents qui sont principalement sur Valence et qui voilà, sont disposés à échanger avec des parents qui seraient perdus et qui vivraient à peu près les mêmes situations, quoi.
Il y aura ces questions-réponses à la suite de cette projection de Toxique avec Claire Pereira, de nouveau, et vous, Laura Marchelli. Vous êtes donc père aidante. Peut-on définir ce terme ?
Ah bah alors, Jean-Pierre ne savait pas trop comment me nommer, donc j'ai dit père aidante. Mais après, il y a un diplôme universitaire vraiment de père aidance. En gros, c'est des termes qui sont arrivés il y a quelques années des pays anglo-saxons et dans l'idée que les personnes qui peuvent le mieux accompagner, ce sont celles qui ont vécu ou qui vivent les situations. Donc voilà. En France, on en est au début de tout ça. Il y a pas mal de structures, d'hôpitaux qui maintenant réservent une place aux pères aidants aussi quand ils essayent d'élaborer des schémas de soins, d'accompagnement pour justement prendre la vie des personnes qui ont souffert, qui souffrent. Et ça permet, donc moi je vais juste parler de ce que je connais, de ce que j'ai essayé, ce qui n'a pas fonctionné et voilà.
Cette formation de père aidante, c'est une formation récente, semble-t-il. Donc, est-ce que ça nécessite une période d'études de combien de temps environ ?
Alors, j'ai vu que c'était à Lyon Lumière et il me semble que c'est sur un an. Après, il y en a peut-être d'autres, mais celles que j'avais repérées, voilà.
Il y aura donc cette soirée à partir de 20h30 jusqu'à 23h et ça sera au cinéma Le Pestel. Samedi 7 juin, dernier jour donc de cette semaine sur 10, avec toujours un atelier d'écriture entre 17h et 18h30 au café, au Pestel Café du cinéma Le Pestel.
Oui, parce qu'en fait, le film Toxique passe toute la semaine, donc il passera aussi le samedi à 18h45. Donc voilà, on s'est dit qu'on pouvait inviter les gens, soit qui allaient voir le film, soit même d'autres personnes, à venir faire un autre atelier d'écriture avant le film. Donc de 17h à 18h30. Et voilà, on n'a pas encore trouvé comment on va l'animer. Ce sera certainement un petit peu différent que celui des popotes, mais on va trouver, il n'y a pas de souci. Peut-être que justement, ce qui sera dit ou les questions qui seront posées... lors du café débat, de la soirée débat de la veille, va peut-être nous donner une petite ligne.
Est-ce qu'il y a un lien aussi avec le comité local de santé mentale sur ces démarches, ce travail ?
Eh ben, ils ont évidemment l'info. Moi, je participe aux réunions du CLSM. Donc, j'imagine que Mathilde a transmis le programme de l'association à l'ensemble des partenaires. On a Claire Pereira, donc, qui fait partie de la CPTS du DIWA, donc, qui intervient et qui est financée par la CPTS pour ses temps d'animation. Et voilà. Donc,
On peut rappeler rapidement hein, le CPTS, hein, ce sont des professionnels de santé qui se sont mis à œuvrer pour peut-être satisfaire au mieux aussi les problématiques du DIWA.
Oui, tout à fait. Voilà, je pense que c'est toujours bien que dans n'importe quel domaine, il y ait des partenariats et des réunions de gens qui œuvrent sur le territoire. Donc là, en l'occurrence, c'est tout ce qui concerne la santé. Et je crois qu'ils sont en train d'essayer d'embaucher quelqu'un pour justement l'aspect santé mentale. Parce qu'on sait vraiment que sur notre territoire, c'est un sujet qui est à traiter et sur lequel il faut inventer des choses.
Il y a aussi le soutien de la ville de Die.
Oui, la ville de Die, ça fait la deuxième année qu'on a demandé une subvention, une petite subvention pour pouvoir justement mettre en place les activités autour des troubles des conduites alimentaires et ce qui permet aux personnes qui participent aux activités de ne rien avoir à payer.
Il y a ce 12 rue Émile Laurent, votre local qui permet d'accueillir aussi. Est-ce qu'il y a des horaires ? Est-ce que ça s'opère par rendez-vous ? Et donc une prise de contact, soit par téléphone ou par mail ?
Alors, le local, moi j'y suis de 9h à midi, les lundis matins et les jeudis matins, voilà, pour mon temps salarié. Et puis, en dehors de ça, évidemment, sur rendez-vous quand il y a besoin. Et après, il y a les activités qui se passent. Donc, le lundi après-midi, il y a de la psychomotricité. Le mardi, une semaine sur deux, le soir, il y a le groupe de parole. Et le vendredi, toute l'après-midi, toutes les trois semaines, il y a l'atelier d'écriture.
Cet atelier de psychomotricité, à qui s'adresse-t-il ?
Alors, pour moi, j'ai un petit peu l'habitude de dire que si on se questionne sur son rapport à l'alimentation ou qu'on ne se sent pas à l'aise avec ça, la porte est ouverte, quoi. Venez tester, venez discuter avec moi, venez discuter avec Claire. Et après, vous voyez. Du coup, c'est des séances où on paye à l'heure, nous, enfin l'association paye à l'heure. Donc, qu'il y ait une, deux, trois ou quatre participantes, ça ne va rien changer en tant que tel pour nous, financièrement parlant. Et ça peut peut-être être même plus riche en termes d'échanges, en termes d'évolution des unes et des autres. Donc, moi, j'ai envie de dire, si vous questionnez sur votre rapport à l'alimentation, que vous avez l'impression de ne pas être connecté à votre corps, venez voir, venez tester.
Cet accès est coûteux ou est-ce qu'il y a des tarifs ou même des prises en charge ?
Alors, du coup, là, il faut adhérer à l'association. C'est une adhésion à prix libre. Ça permet d'être couvert par notre assurance sur l'ensemble des activités. Et après, les activités sont gratuites parce que prises en charge par notre association.
Toute la semaine, il y aura aussi, en plus des stands d'infos sur les marchés, une exposition des textes de l'atelier d'écriture au cinéma Le Pestel. Donc, on pourra peut-être y trouver un écho, ce que certaines personnes peuvent éprouver. Et pour les contacts aussi, il y a le site internet Journée mondiale du TCA, donc Journée mondiale des troubles du comportement alimentaire, des conduites alimentaires. Et ça sera .fr. Je mettrai l'adresse du site sur la page. Et il y a un contact téléphonique. Ça, c'est pour quel problème ?
Alors, le site, c'est le site national sur lequel vous pourrez trouver pas mal de conférences en ligne, d'événements qui se passent un peu partout en France. Donc, je vous invite à aller voir ça quand vous pouvez, ou même ce sera encore en ligne après coup. Et le numéro, c'est mon numéro de téléphone. Donc voilà, s'il y a besoin.
Que j'indiquerai sur la page de l'émission, si des personnes veulent prendre contact.
Du coup, concernant l'exposition des textes, donc ça va se passer toute la semaine au cinéma Le Pestel. Donc c'est des textes qu'on a anonymisés, bien sûr, et l'idée c'est de voilà que, d'inviter les gens à lire, à voir potentiellement ça leur parle, ce qu'on exprime, ce qu'on ressort, et donc il y en aura exposé au Café Pastel, et on va aussi en mettre mercredi aux popotes, voilà, quand les gens passent. Et dernière petite chose, normalement, on a aussi mis en voie ces textes à la radio, chez vous, et ils seront passés mercredi durant le Dire en direct.
Quels sont les progrès qui permettraient de mieux s'occuper de ces troubles de conduite alimentaire? Est-ce qu'il y a une demande que vous sollicitez aussi au niveau des pouvoirs publics ou alors
J'ai une demande de la part de l'ensemble des pour l'ensemble des associations. En fait, j'aimerais bien qu'elles se constituent en vrai collectif qui puisse ensuite faire remonter ça au pouvoir public. Normalement, 2025, c'est la cause nationale, c'est la santé mentale. Je ne suis pas sûre qu'on en ait vu grand-chose jusqu'à présent. Et encore, quand on parle de santé mentale, je ne suis pas sûre que ce soit les troubles des conduites alimentaires qui viennent en premier lieu en tête, alors que ça touche plus d'un million de personnes détectées, donc on peut dire deux fois plus, et qu'il y a eu une explosion depuis le Covid de l'ordre de 50% des cas. Il y a un besoin important de former les professionnels de santé et les professionnels de l'éducation pour pouvoir identifier rapidement. Voilà. Et après, moi, je regarde beaucoup ce qui se passe dans d'autres endroits sur la planète où ils ont pris ça plus à cœur. Et il y a une vraie politique publique nationale avec des structures qui existent un peu de partout, des structures qui proposent plein d'activités différentes. Moi, c'est pas pour rien que j'ai voulu mettre en place la psychomotricité ou l'atelier d'écriture. C'est parce que j'ai vu qu'ailleurs, c'était ça qui était mis en place et que ça avait des résultats. Après, j'ai vu aussi, par exemple, en Australie, qu'ils ont carrément un programme national où ils prennent en charge les soins pour les ados, de l'âge où ça démarre jusqu'à 25 ans, mais pas que les ados aussi. Les soins pour l'ensemble de la famille, parce qu'en réalité, quand les troubles surviennent, ça ne touche pas que... Évidemment, ça touche la personne qui en souffre, mais ça touche aussi l'ensemble de la famille. Et donc, il ne faut pas oublier ça. Et en plus, c'est la thématique de cette année pour la Journée mondiale. C'est quand les troubles des conduites alimentaires intègrent la famille. Et donc, c'est l'ensemble d'une dynamique qui est modifiée. Et il ne faut pas oublier les parents ou les compagnons, les proches, les frères ou sœurs qui sont là, quoi.
À quel moment apparaissent ces symptômes? Est-ce qu'ils peuvent apparaître rapidement dans l'existence d'une personne ou alors c'est suite à un problème particulier?
Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a, on va dire, ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est à l'adolescence, préadolescence, adolescence. Donc, c'est un peu l'âge critique. C'est pour ça que former les professionnels de vie scolaire, pour former les infirmières de cité scolaire ou de collège-lycée, les profs de sport, enfin voilà, plein de professionnels qui œuvrent avec les jeunes ados, c'est pour moi primordial. Voilà, maintenant ce qui se passe ces derniers temps, c'est qu'il y a des cas d'anorexie principalement et de boulimie de plus en plus tôt. Là, on m'a rapporté des cas de 7 ans, 9 ans. Et là, en fait, ça s'explique. Alors, ça peut s'expliquer par un environnement familial très angoissant, très stressant, qui met de la pression sur le poids, qui met de la pression sur l'alimentation. Mais ça s'explique aussi par l'ambiance générale qui est dans l'air du temps sur... la fin du monde, l'éco-anxiété, rien ne va, donc des informations qui sont très négatives, très néfastes, et pour des enfants qui potentiellement sont peut-être plus sensibles ou qui ont un tempérament angoissé, ben voilà, ça va avoir des impacts beaucoup plus importants sur eux. Après, il y a ce qu'on appelle l'anorexie du nourrisson, mais ça qui est très rare, et c'est un nourrisson ou un bébé qui refuse même de s'alimenter dans le ventre de sa mère ou à la naissance. Et là, c'est pas de son fait à lui, donc il faut plutôt aller chercher sur la maman en elle-même, qu'est-ce qui va pas, voilà. Et dernière petite chose qui est importante, c'est que les troubles des conduites alimentaires. Il y a ce côté poids de la société, poids sur le physique des femmes qui peut être important aussi. Mais il y a un autre aspect qui est assez corrélé avec les violences subies. Donc les violences physiques ou les violences psychologiques. Et dans 70-80% des cas, des femmes victimes de violences vont avoir des troubles des conduites alimentaires. Donc il faut aussi être en alerte sur ça.
Laura Marchelli, merci beaucoup d'être venue sur RDWA pour nous parler donc de cette semaine d'information et de sensibilisation sur les troubles de conduite alimentaire. Et je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai peur de croiser mes yeux dans les miroirs. C'est pas vrai, c'est mon corps dont j'ai peur. Mais c'est dur d'assumer mon regard, les regards. Et tu vois, je t'ai menti dès la première ligne. J'ose pas montrer ce que j'ai dans le cœur. Je passe ma vie à changer, je dessine. Est-ce que je m'aimerais enfant?